Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Concrètement. Vous connaissez le principe, quelques minutes pour discuter très très concrètement d'un sujet, d'une thématique de l'informatique. Bonjour Pascal Solière.
Bonjour Arnaud Lheureux.
Je suis ravi que tu m'aies donné cette place pour animer Concrètement aujourd'hui. Tu as vu, j'ai même mis la chemise noire. Hein.
Ah ben c'est très bien.
C'est l'uniforme,
je crois.
Absolument. Tout ça pour que tu puisses nous montrer aujourd'hui très concrètement un sujet qui te tient à cœur et qui s'appelle Nano.
Qui s'appelle exactement nanoserveur.
Alors Pascal, qu'est-ce que c'est?
Alors nanoserveur, qu'est-ce que c'est? C'est un mode d'installation de Windows Server 2016. Donc on peut expérimenter aujourd'hui avec les technical previews qu'on connaît actuellement. Au moment où on tourne ceci, on est en TP4.
Yes.
Technical Preview 4 de Windows Server 2016. Ça sera donc en version finale quelque part en 2016. Donc qu'est-ce que c'est que ce nano serveur? Nano veut dire très petit, mm-hmm. En gros, hein, on ne va pas passer sur les détails entre micro, nano, etc.
C'est 10^-9 nano, c'est
exactement.
Ça
enfin, oui, je pense. Je te fais confiance. Et donc un nano serveur, c'est un petit serveur. En fait, c'est quoi le principe? On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il devrait y avoir sur un Windows, sur un operating system serveur? Il ne devrait y avoir que les composants nécessaires à installer des fonctionnalités. En gros, de base, on n'a pas besoin de fonctionnalités, on a juste besoin d'installer ce qu'on veut faire tourner sur un serveur. Mmh. Et qu'est-ce qu'on veut faire tourner sur un serveur? On veut faire tourner des applications comme dans un serveur web, un hyperviseur par exemple pour un serveur pour un hyperviseur ou alors un hôte de container par exemple. C'est le genre de choses qui nécessite d'avoir le moins possible d'OS en dessous de l'applicatif, en dessous des services rendus, d'avoir une disponibilité maximale également. Puisque imagine dans un environnement de type cloud, on ne va pas rebooter nos serveurs hôtes tous les jours sous prétexte qu'on a un patch d'Internet Explorer à installer sur les serveurs. Mm-hmm. Donc on va éviter d'avoir ce genre de composant qui est patché souvent. Donc moins il y a de choses sur le serveur, moins il y aura d'occasions de patch et donc d'occurrences de patch mensuels ou autres. Donc des serveurs très petits pour avoir des environnements très denses. Exemple typique, les serveurs de hyperviseurs, donc le serveur Hyper-V. Les serveurs de stockage également.
Ouais, là, typiquement, on veut juste un petit hyperviseur qui a exécuté de machines virtuelles qui sont situées sur un emplacement distant. Et puis ce qu'on veut, c'est qu'on ait vraiment une empreinte minimale du disque. Hein, ce qu'on fait pour Azure, c'est vraiment ça qu'on veut faire.
Exactement. Et puis au niveau applicatif, on pense au serveur web avec des plateformes dites de nouvelle génération, donc avec du Core CLR, ce genre de choses-là. Et puis des containers. Mm-hmm. Quelque chose qui est vraiment, vraiment d'actualité avec Windows Server Container et les Hyper-V Container. Donc on veut des serveurs qui sont disponibles au maximum et qui permettent le plus de densité possible. Donc moi ce que je te propose c'est de te montrer un peu dans le concret comment ça va se passer sur un serveur d'exemple.
Allez c'est parti, déjà premièrement comment on construit tout ça?
Donc déjà avant de te montrer comment on le construit, je vais te montrer le résultat.
Cool.
C'est-à-dire ici.
Vas-y.
Un Hyper-V sur lequel il y a quelques machines virtuelles, mm-hmm. Les trois premières étant des nanoserveurs. Donc tu remarqueras que les nanoserveurs, là, je leur ai alloué à chacune, alors je vais peut-être me mettre dans un mode de zoom différent, je leur ai alloué à chacune 256 mégas de mémoire.
Et
si tu regardes la deuxième que j'ai sélectionnée ici,
très généreusement,
elle consomme en fait 135 mégas de mémoire, c'est vraiment pas beaucoup.
Plutôt, ouais.
Hein, compare avec le Ubuntu qui est en dessous, là, qui a 512 mégas de mémoire et qui en consomme 271 alors qu'il ne fait strictement rien. On est quand même deux fois en dessous d'un serveur Linux qui est quand même réputé pour être très, très peu gourmand en mémoire quand il est installé en mode serveur, en mode texte simple.
Cool.
Donc on est dans le même principe d'un OS serveur qui n'a pas d'interface graphique. Tu regardes, tu vois la page de logon, c'est une page texte, purement texte. Mm. Quand on va s'authentifier dessus, en fait, on verra juste l'adresse IP, la configuration réseau de la machine et puis la capacité d'aller éventuellement la corriger si on en a besoin. Mais c'est tout. On n'a pas d'interaction, on n'a pas de shell interactif sur la console elle-même. Tout va se passer à distance. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, Arnaud. On va regarder maintenant comment ça se construit, tout ça. Alors comment ça se construit? En fait, on a sur l'image ISO, donc sur le support de Windows Server 2016. Mm-hmm. Donc ici, hop, j'ai l'image ISO qui est dans mon répertoire temp. Cette image ISO, je vais l'ouvrir. Et comme tu le sais, quand on l'ouvre maintenant, on la monte directement dans notre file système. Et à l'intérieur, il y a un répertoire qui s'appelle NanoServer. Et dans ce répertoire NanoServer, il y a une image WIM de NanoServer, donc une image prête à l'emploi pour préparer une image NanoServer. Tu remarques qu'elle fait 133 mégas de taille. Cool. Et puis, il y a deux scripts PowerShell pour aller avec l'image, pour pouvoir construire des images personnalisées de nanoserveurs. Mmh. Il y a également un autre sous-répertoire qui s'appelle Package.
Mmh. Qu'est-ce que c'est ?
Et dans ce répertoire, on trouve différents packages, donc des fichiers .cab, qui constituent en fait des composants qu'on va pouvoir ajouter à notre image nanoserveur. Parce que de base, nanoserveur, comme je disais, il n'y a rien dedans, il y a juste l'OS. Mmh. Si on veut faire un nanoserveur qui va, par exemple, servir de serveur IIS, eh ben on va rajouter le serveur qui est au milieu, là, qui s'appelle nanoserveur IIS package. On va directement l'intégrer dans, dans l'image.
C'est un petit peu le do-it-yourself du serveur.
Exactement.
Tu viens, tu rajoutes tes briques, ce que tu as besoin de faire.
Donc, on peut intégrer ces briques à la demande quand on va créer l'image. On peut très bien, on peut aussi les ajouter après coup avec des outils comme Dizum, parce que Dizum peut fonctionner online et pas forcément, pas uniquement offline. On pourra le faire aussi offline, c'est-à-dire ouvrir le VHD, rajouter les packages et puis le refermer en gros. Mm-hmm. On peut aussi le faire online si on en a besoin. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans un scénario cloud, puisque depuis récemment, on a une image, on a dans la marketplace Azure, mm-hmm. une image de NanoServer 2016. Donc, il nous permet de monter des nanoserveurs dans le cloud. Tous ces packages sous forme de fichiers .cab sont dans l'image. Et donc, on peut ensuite, à la demande, rajouter nos fonctionnalités dans nos nanoserveurs dans le cloud.
Alors, tout ça, c'est les rôles qui sont supportés à date où on est en train de parler pour nanoserveurs. Parce qu'on voit DNS, voit storage.
Exactement.
On voit quoi d'autre ? Les reverse DNS. Forwarder.
DSC c'est... pour avoir un serveur pool DSC, mm-hmm. on a IIS, on a OEM driver, c'est pour les drivers de serveurs matériels, serveurs physiques.
Ah oui, c'est une bonne question ça, parce qu'au niveau des drivers, pareil, c'est faut venir avec ses drivers, c'est ça ?
Exactement. Donc il y en a déjà un bon paquet dans OEM drivers, mm-hmm. mais s'il faut en rajouter, il faut les rajouter à l'image. Reverse forwarder, c'est pour avoir une compatibilité applicative avec des applications qui ne sont pas faites pour nanoserveurs. Mm-hmm. Par exemple, si tu veux installer des choses comme des composants tiers, comme Node.js ou ce genre de choses-là, ça va fonctionner avec ce package spécifique.
Allez Pascal, je brûle d'impatience, construisons notre première nanoserveur ensemble.
Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre mon PowerShell ici, et puis je vais aller dans le répertoire temp dans lequel j'ai déjà extrait les deux fichiers PowerShell qui étaient dans le répertoire nanoserveur du DVD de l'image ISO de Windows Server 2016.
Ok.
Donc première étape, on importe le module qui s'appelle nanoserveur-image-generator.psm1. Mm-hmm. Et quand tu vois quand on l'importe, ça nous charge en fait trois fonctions PowerShell dans notre PowerShell. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va utiliser la fonction qui s'appelle new nanoserver image avec quelques paramètres. Comme paramètre, on va lui dire, ben voilà, l'image ISO, là, on l'a chargé dans le D2. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a besoin, lui, d'aller chercher les packages, en fait, dans le répertoire.
Voilà.
Il va travailler dans un répertoire de travail qui est ici base dans le répertoire courant. Voilà. Il va créer un VHD qui va être à tel endroit. Et puis, il va donner un nom de machine à la machine qu'il va créer, mm-hmm. À l'intérieur de l'image, donc que je spécifie ici. Et puis ensuite viennent quelques options. Alors moi, guest drivers, c'est pour installer le package, un de ces fameux packages qui était dans le répertoire package, le package qui permet d'avoir une image qui va être une machine virtuelle dans Hyper-V. Mm-hmm. Donc c'est les composants
de virtualisation.
Exactement. Donc au passage, je vous ai pas montré la bonne, je vais vous montrer plutôt la version qui est juste après ici. Donc même ligne de commande, sauf que la machine s'appelle Nano IIS.
Ouais.
Voilà, je veux simplement vous montrer comment on rajoute IIS. Mm-hmm. Donc guest drivers parce que ça sera une machine virtuelle, mais je rajoute également le package qui s'appelle Microsoft NanoServer IIS package pour ajouter le serveur web IIS dans ma machine virtuelle. Mm-hmm. Donc je fais F8 là-dessus. Ça va prendre quelques petits instants. Il me demande le mot de passe pour mon compte administrateur de la machine virtuelle, mm-hmm. de l'image qu'il est en train de créer. Et là, on va attendre quelques instants.
Donc là, j'imagine, il crée le VHD, il le monte quelque part, il copie les fichiers tranquillement, et puis ensuite, il va le démonter et puis te dire le VHD est terminé, c'est ça ?
Exactement.
Tranquillou. Et puis pendant le temps qu'on parle, bah voilà, c'est ce qui est en train de se passer.
C'est ce qui est en train de se faire, c'est très rapide. Une fois que ça sera fait, eh bien, je vais créer la machine virtuelle qui va utiliser le VHD que je viens de créer.
Mm-hmm. Donc new VM, name nano2.is, tu lui donnes généreusement 256 MB de RAM en lui donnant le path que il vient de
du VHD que je viens de créer.
Voilà ce que tu as mis dans le target path juste au-dessus. Hein.
Et je le connecte à un switch virtuel de Hyper-V qui est déjà créé à l'avance. Vous le remplacerez par le nom de votre switch virtuel Hyper-V que vous souhaitez. Voilà, il rend l'image bootable. Il prépare évidemment le BCD, donc tout ce qui permet de booter sur la partition qu'il vient de créer à l'intérieur du VHD.
Voilà, et là,
il ferme l'image.
On démoule la VM et on va envoyer ça ensuite directement.
Cool. Alors, il ajoute le package, il fait le DSOM offline. Ok, j'avais oublié celui-là.
Ah, il fait le DSOM offline, d'accord, c'est intéressant. Mm. Il aurait pu le faire online.
Donc pendant que ça continue à finaliser la machine virtuelle, je vais vous montrer simplement que dans la documentation correspondant à Nano Server, vous avez évidemment toutes les options correspondant à l'inclusion des packages dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, pour installer le rôle file server, on va rajouter moins storage, etc., moins Defender pour rajouter l'antivirus, etc. Mm-hmm. Et puis, il y a d'autres options dont on verra l'utilité juste quand on va utiliser la machine virtuelle, des options par exemple qui permettent de fixer une adresse IP fixe. Parce que là j'ai une config réseau par défaut dynamique, donc je vais être DHCP. Donc voilà, la machine virtuelle, je vais pouvoir la créer. Donc je crée la machine virtuelle. Et on va voir qu'une fois que ma machine virtuelle va démarrer, ben, je vais devoir faire quelque chose pour connaître l'adresse IP de ma machine virtuelle. Donc là, je suis en train de la démarrer, la machine virtuelle. Donc elle est en train de démarrer.
Suspense est à son maximum.
Donc elle s'appelle NanoIIS. Si je regarde la console graphique, hein, parce que je sais que certains y tiennent, hop, je vois qu'elle est en train de tourner ici même.
Nano2.is, ok, running depuis 16 secondes, effectivement, il n'y a pas de trucage.
Donc elle est en train de démarrer, elle n'a pas encore d'adresse IP, mais elle est en train de démarrer.
Là, si j'imagine que le premier run, il est un petit peu plus long parce qu'on va énumérer les drivers peut-être.
Exactement.
Et tout ça.
Et puis, donc on voit son adresse IP, là, 192.168.0.133, ou sinon, hop, j'aurais pu la récupérer avec une commande de ce type-là. Donc je récupère en fait l'adresse IP en récupérant l'objet IP adresse du network adapters, etc., de la machine virtuelle. Donc une fois que je connais son adresse IP, c'est donc 133, je peux l'utiliser et par exemple vérifier que en faisant start HTTP 192.168.0.133, hop, j'ai bien un IIS qui répond. Et on voit que instantanément ça répond. Tu vois. Donc je passe sur l'installation possible évidemment des composants supplémentaires utilisant .NET CLR, etc. etc. On peut également aller administrer cette machine virtuelle, maintenant que je connais son adresse IP, en PowerShell également, c'est aussi une option possible. Ouais. Donc, par exemple, il faut déjà déclarer l'adresse IP comme étant une adresse IP à laquelle j'accepte de me connecter sans faire de SSL. Puisque là, je suis sur mon réseau local. Hein. Si je faisais à distance, par exemple, quand on va le faire dans Azure, ben, on va utiliser SSL au niveau de notre connexion WinRM. Hein. C'est
pas
un
mal,
petit
ouais.
peu normal. Je mets mon mot de passe pour faire mon Enterprise Session pour me connecter à la machine virtuelle. Et là, je vais avoir un shell interactif en ligne de commande directement sur le PowerShell de ma machine virtuelle.
Donc,
et voilà ce qui est fait.
Ok, donc on voit bien qu'on est sur l'autre machine.
On voit bien qu'il y a un répertoire derrière, dans la racine qui s'appelle inetpub, et que dedans, il y a bien wwwroot, etc.
Ouais, okay.
On peut tout faire, on peut presque tout faire. On n'est pas dans un système complètement complet, puisqu'on a un core CLR, on n'a pas la .NET CLR complète, mais on peut faire quand même des choses. Par exemple, on peut importer le module IIS administration pour administrer notre IIS directement sur la machine virtuelle. Donc tout ceci, on peut le faire également à distance avec des scripts qui vont faire des invoke commandes à distance si on le souhaite. Donc voilà ce que je pouvais le montrer vraiment le plus rapidement possible sur Nano Server.
Eh bien, c'est cool, ça laisse la voie à pas mal d'explorations et de nouveaux plaisirs pour les infrastructures.
Bah, tout à fait, et puis avec les scénarios éventuellement dans le cloud également, on peut faire des choses qui sont pas mal sympathiques. Donc
Bah, j'ai envie de dire merci Pascal, et puis merci à toutes et à tous de nous suivre sur Concrètement.
Et à bientôt.
Yes.